Bonsoir. Pour suite de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma, les groupes armés se sont exprimés. Vous le savez, les travaux en atelier ont commencé ce mardi, travaux encouragés par la présence à Goma du président de la République, Joseph Kabila, et du nouveau patron de la MONUC, Alain Dos. Mais pour ce qui est des groupes armés, ce sont eux qui ont clôturé hier lundi les exposés en plénière à la conférence sur la paix dans les deux Kivu. Que disent les groupes armés CNDP de Laurent Nkunda, Mai Mai et le groupe des 47 basés dans les hauts plateaux de Milimbwe? Face à ces revendications, quelle solution pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire national? C'est cela le thème de cette émission au Dialogue entre Congolais. Beaucoup de questions et des réactions aussi de la part des auditeurs. Parmi eux, Patrick Mangaï de Bouni en province orientale. Il dit ceci, je cite, « En suivant les déclarations des groupes armés, il n'y a aucun signe qui témoigne qu'après la conférence, ils déposeront les armes. » David de Bouanga de Manono Katanga, nous espérons qu'à l'issue de la conférence en cours à Goma, les groupes armés accepteront de déposer leurs armes, car les Congolais du Nord et du Sud Kivu qui meurent sont aussi humains et utiles pour la RDC. Alex de Kikwit dans le Bandundu, pour lui, la conférence en elle-même ne peut résoudre le problème de l'Est de la RDC. Seul un dialogue sincère du gouvernement avec tous les marginalisés du processus démocratique pourra y arriver. Nos invités de ce soir, il s'agit de Willy Mishiki, représentant du groupe Mai Mai, et c'est un ministre honoraire. Nous avons aussi René Abandi, porte-parole du CNDP de Laurent Nkunda, et le professeur Philippe Biwea, professeur à l'Université protestante du Congo. Il intervient comme analyste dans cette émission. Bienvenue à tous.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Pour suite de la conférence sur la paix à Goma, les groupes armés se sont exprimés, c'était hier lundi en plénière. Que disent les groupes armés CNDP de Laurent Nkunda, Mai Mai et le groupe des 47 basés dans les hauts plateaux de Milimbwe? Claude Kianza, qui est présent à Goma, nous donne la substance de ces différentes déclarations.
Dans leurs exposés, les différents groupes armés Mai Mai du Nord et Sud Kivu affirment avoir pris les armes pour défendre le sol et le sous-sol du pays, convoité selon les Mai Mai par les immigrés rwandais. Les Mai Mai Yakutumba, par exemple, refusent le retour par la force des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Les Mai Mai exigent que leur chef coutumier soit associé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour identifier ces réfugiés avant leur retour. Par ailleurs, les Mai Mai Yakutumba contestent la nationalité de certains rwandophones se référant aux documents historiques des colons belges. En outre, les Mai Mai, comme ceux de l'axe Kabare Nija, dénoncent la surreprésentation des officiers tutsi congolais au sein de l'armée et de la police nationale congolaise. Ils exigent aussi le retour au Rwanda des réfugiés hutus rwandais afin que plus tard, ils ne demandent pas, selon les Mai Mai de l'axe Kabare Nija, la nationalité congolaise. Ils exigent aussi, de la part des populations immigrées rwandophones, le respect du pouvoir coutumier établi et des superficies se trouvant sous leur autorité. Quant aux groupes armés comme le CNDP, ils s'élèvent contre la marginalisation dont fait l'objet les populations tutsies, spécialement ceux se trouvant encore dans certains pays étrangers. Ils exigent leur retour. Le CNDP, qui accuse le gouvernement congolais d'être à l'origine de la guerre au Nord Kivu, appelle à des négociations directes entre belligérants sans préciser lesquels. Le CNDP exige aussi le retour sans condition du sénateur Jean-Pierre Bemba. Par ailleurs, le CNDP dénonce les mandats d'arrêt qui auraient été lancés contre certains de ses chefs militaires pour être jugés à l'étranger. Pour sa part, le groupe dit des 47, actif dans le haut plateau de Milimbwe, affirme avoir pris les armes pour se défendre face à la discrimination dont ils sont victimes du fait de leur appartenance à la communauté tutsi congolaise et aussi parce qu'ils sont qualifiés de traîtres.
Voilà, c'était là Claude Kianza. Willy Mishiki, c'est vous qui représentez les Mai Mai dans cette émission. Vous vous opposez au retour des réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins pour une question de nationalité. Est-ce que ça tient?
Oui, en fait, je crois que la position des Mai Mai a été très claire. Nous ne nous opposons pas au retour de nos frères et sœurs congolais vivant dans les pays voisins, mais nous avons dit que pour qu'ils puissent retourner, il faudrait quand même qu'on sache là où on va les placer. puisque comme vous le savez très bien, chaque centimètre carré de notre territoire appartient soit à un clan, une tribu ou bien à une famille. Donc c'est ce que nous avons proposé, c'est que dans cette commission-là, où il y aura les hauts commissariats aux réfugiés et le gouvernement congolais, mais qu'on puisse aussi y associer les chefs coutumiers. Puisque ici à l'Est, au Nord et au Sud Kivu, chaque groupe ethnique ou chaque population a son chef coutumier. Et le chef coutumier sait exactement quelle population vivait ici. Mais on peut même retracer jusqu'à 200 ans. Il n'y a pas de problème. Donc, on ne s'oppose pas, mais nous demandons à ce que les chefs coutumiers soient associés à l'opération de rapatriement au pays.
Oui. Donc, vous vous opposez au retour des réfugiés dans le pays. Vous vous demandez même s'ils rentrent, où est-ce qu'ils vont être. Mais est-ce qu'il faut se demander où doit rentrer un réfugié?
Non, parce que dans le passé, ces retours tels qu'organisés par le RCD avec son gouverneur Serufuri Ndayabateka du Nord Kivu, ça a posé beaucoup de problèmes, puisqu'on a mené des populations, nos confrères et confrères du Rwanda, on les a menés à Masisi, et là où on les a menés, elles-mêmes ne savaient pas là où ils allaient, et c'était un problème avec les autochtones. Mais si ces populations-là savent elles-mêmes là où ils vont être placés et que les chefs coutumiers préparent les conditions d'accueil, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Puisque ça serait encore un autre conflit si on amenait des populations transplantées et qu'on les plaçait à des terres qui appartiennent déjà à des autochtones. Cela risque encore de régénérer le conflit tel que nous l'avons vécu dans les années passées.
Oui, donc vous craignez la résurgence des conflits, donc pour vous, il faut que tout le monde soit impliqué. Donc vous parlez même des chefs coutumiers, il faut qu'ils soient impliqués dans ce retour pour éviter, est-ce que vous voulez dire que vous voulez éviter des infiltrés, est-ce que c'est ça que ça veut dire?
Pas nécessairement, puisque les infiltrés, ils sont déjà là, nous avons beaucoup d'infiltrés ici, tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que nous évitons tout ce qui peut constituer des accrochages avec des autochtones locaux, puisque comme vous le savez très bien, il n'y a pas de terre libre. Mais si ces frères et sœurs qui vivent dans les pays voisins, non seulement au Rwanda, nous avons aussi des Congolais qui sont en Tanzanie, qui sont au Rwanda, des Congolais autres que des personnes qui viennent au Rwanda. Mais tous ces gens-là, lorsqu'ils reviennent au pays, ils sont les bienvenus, pourvu que nous puissions préparer avec les chefs coutumiers, qui sont des gardiens des terres, les endroits là où nous allons les placer. En tout cas, ils sont les bienvenus à cette condition-là. Sinon, ça va poser encore des problèmes et toutes les énergies que nous avons dépensées lors de cette conférence, finalement, ne vont rien servir.
Oui. Alors, René Abandi, puisque vous êtes porte-parole du CNDP de Laurent Kunda, et parmi vos revendications, il y a justement aussi ce retour de réfugiés, les mêmes réfugiés. Hein, vous venez de suivre la position des Maïmaï, vous l'avez déjà suivi au niveau de la plénière. Comment vous pouvez réagir à la position des Maïmaï là-dessus?
Il faut dire que certaines choses qu'ils déclarent sont contradictoires avec d'autres conséquences qu'ils tirent. D'abord, ils reconnaissent que ce sont ses frères congolais réfugiés dans les pays frontaliers, notamment le Rwanda, le Burundi, ils citent même la Tanzanie. Et il faut préciser que le CNDP réclame le retour dans la dignité de tous les réfugiés se trouvant dans les pays frontaliers. Donc nous n'avons pas oublié ou pensé particulièrement à un tel pays. Donc ça c'est une précision à lui faire. Autre chose, après avoir reconnu que ce sont ses frères qu'ils ont droit de rentrer dans le pays, oui, il commence à poser des conditions en disant que chaque mètre carré, chaque centimètre carré a son clan, sa famille, sa tribu. Je vais lui préciser qu'exactement, ces réfugiés ont aussi leur clan, leur famille et leur tribu. Cela, ça n'a rien à faire l'organisation familiale à laquelle on appartient et le droit de rentrer au pays, le droit de s'établir chez soi. Ces réfugiés aussi ont leur centimètre carré, ou leur kilomètre carré, ou leur terre. Donc, chacun va rentrer dans sa terre, et quiconque n'a pas de terre, il sera locataire, il n'est pas dit que la propriété soit uniquement terrienne. Donc, il faut qu'on cesse de faire des faux débats, parce qu'il s'agit des problèmes de droit des autres, et nous avons entendu beaucoup de discours discriminatoires, des discours d'intolérance grave. Il faut que des Congolais apprennent à se parler dans le respect des uns et des autres, dans le respect de leurs différences, c'est très important.
Oui. Là, vous parlez de beaucoup de discours discriminatoires. À quel niveau, là, vous parlez peut-être de la plénière au niveau de la conférence où vous êtes?
Il y a la plénière qui a été caractérisée par des discours d'une haine extraordinaire. Et ça, c'est un problème. Il y a des gens qui se croient permis de traiter les autres de tous les mots. Il y a les faits banals que chaque communauté ethnique croit qu'elle est composée par des anges et que les autres sont des diables. Et nous pensons que cette manière de voir les choses n'est pas de nature à favoriser la réconciliation nationale.
Ouais, on va y arriver parce qu'on a... On a le professeur Philippe Bioya. Professeur, juste à ce niveau d'abord, en ce qui concerne le retour des réfugiés, là déjà vous sentez qu'il y a une contradiction entre le point de vue de Willy Michiki, donc qui représente les Maïmaï pour eux. Pas question que les réfugiés rentrent comme ça, il faut que ça se fasse de façon minutieuse, il faut veiller au grain pour qu'il n'y ait pas d'infiltrés, lui-même dit qu'il y en a déjà. Et puis pour le représentant du CNDP, de Laurent Kunda, il faut que ces réfugiés rentrent, il n'y a pas un problème de terre. Votre avis, professeur, là-dessus?
L'intéressant dans les différentes prises de position, c'est que ça nous permet de décerner les vrais problèmes qui se posent et qui n'est pas en fait à la portée de différentes parties qui sont conduites à la conférence, c'est que visiblement il manque une autorité qui généralement dans ce genre de choses fédère en fait les passions, les affections, les ambitions. Donc nous sentons que le Kivu est essentiellement caractérisé par une crise d'État. Il n'y a pas d'État. Parce que s'il y avait l'État, c'est bon, le communauté ne poserait pas le problème de la propriété des terres. Les terres appartiennent à l'État congolais. Les terres n'appartiennent pas à des communautés. Et vous sentez que le pouvoir des chefs coutumiers semble prédominer au pouvoir de l'État. C'est que, puisqu'il y a conférence, et l'avantage de ces différentes positions, c'est que nous comprenons que le problème le plus important qui a fait que le communauté arrive à s'affronter, c'est l'absence d'un arbitre neutre qui est l'État. Donc, c'est que le Kivu a besoin, en fait, d'être restauré dans l'autorité de l'État. Et dès lors que l'État sera là, un véritable État, et vous comprendrez qu'il n'y aura ni Maïmaï, il n'y aura pas de communautés qui pourront se réfugier dans la défense militaire, et que même les Tutsis ne se sentiront pas indiscriminés et ils ne seront pas obligés d'aller recourir à des armes. Et donc, c'est ça le vrai problème. Pour le reste, je crois que... Je vais demander aux uns aux autres, effectivement, bon, d'accepter de supporter un peu l'approche qui a été préconisée par ceux qui ont initié la conférence, c'est que l'on fait une sorte d'exorcisme collectif.
Donc il faut parler
que les gens parlent, disent exactement ce qu'ils pensent, même si ce qu'ils pensent n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce qu'ils pensent qui explique la chose. Et je crois que, en vérité, deuxième chose, les différentes prises de position nous aident à comprendre que les communautés ont, en fait, se sont tellement politisées, alors que le problème fondamental qui semble poser, c'est un problème de nature sociale, un problème de puissance sociale. C'est vrai, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, certaines communautés soient venues d'ailleurs. Mais le problème de l'acceptation de l'intégration ne devrait pas être un problème politique, c'est un problème social. Parce qu'il n'y a que l'État qui, en fait, peut discuter avec d'autres États de ce que les ressortissants d'un pays qui avait une nationalité pourraient ne pas plus relever de l'autorité de cet État-là.
Là, vous parlez du retour des réfugiés.
Oui, alors je pense que la question des réfugiés, c'est une question de droit public, international, c'est pas une question de droit interne, un droit social. Une fois de plus, ils n'appartiennent pas, en fait, aux communautés locales, aux chefs coutumiers ou aux populations locales de gérer cette question. Ça, c'est une question de l'autorité publique. Alors, je pense que ce qui est vrai, cependant, dans les positions des uns des autres, c'est qu'en l'absence de l'État, c'est vrai, ce sont les pouvoirs traditionnels qui opèrent, et les pouvoirs traditionnels ne connaissent pas cette logique, en fait, de la nation, les pouvoirs sont limités à des contrées. On ne peut pas les condamner d'être assez exigeants, mais nous devons demander qu'en fait, que ces communautés se confient à l'État, et que les réfugiés aussi se confient à l'État, et que plutôt, comme a dit l'autre là, l'État doit faire diligence pour que tout Congolais vrai ou faux. Tout celui qui se réclame de la nationalité congolaise, en principe, doit se trouver au Congo, et quand il se trouvera à l'étranger, il doit engager la protection diplomatique de l'État.
Merci, professeur. Et nous revenons à vous, René Abandi. Comment est-ce que le CNDP, dont vous êtes porte-parole, le CNDP de Laurent Nkunda, comment est-ce que vous pouvez intégrer le retour de Jean-Pierre Bemba dans vos revendications? Comment vous expliquez ça, vous?
Effectivement, le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est un citoyen congolais, comme tous les autres, donc ça montre plus ou moins le caractère national de notre requête. Nous pensons que tous les Congolais ont droit d'être là, d'apporter leur contribution à la reconstruction du pays. Il est important que nous ayons une démocratie qui fonctionne normalement, ça veut dire une opposition qui contrôle l'action de ceux qui sont aux affaires. Et donc nous pensons que c'est inévitable que tous les citoyens viennent reconstruire le Congo qui est assez demandeur de l'effort
avec
toutes ces filles.
Oui, oui. Mais tout le monde sait que quand vous avez pris les armes, Jean-Pierre Bemba n'était même pas encore parti en dehors du pays. Est-ce que c'est un appel de pied au MLC ou c'est une récupération politique?
Non, tenez que nous n'avons pas pris les armes en se disant on commence une rébellion. Seulement, il y a eu des problèmes et nous avons posé un certain nombre de problèmes. Au lieu de les résoudre comme on les posait, ou alors de seulement discuter, déclarer et nous déclarer leur irrécevabilité sur le plan pacifique, on a pensé que le mieux était de nous imposer une guerre. Donc c'est seulement en se défendant que notre organisation a pris les armes. Donc c'est plutôt l'absence de choix qui nous a conduit à nous défendre en usant des armes, parce que on venait nous attaquer avec les armes.
Oui, sinon, ouais, allez-y.
Peut-être à l'origine de la CNDP est né d'un besoin de résoudre un problème, c'est tout.
Oui. Vous voulez résoudre un problème, mais on a suivi, là, dans l'une de nos tranches, question du jour, hein, la question a été posée au secrétaire exécutif du MLC, Thomas Loaka, sur la revendication que vous avez avancée, notamment sur le retour de Jean-Pierre Bemba, et le MLC dit que ça n'engage que vous. Comment vous pouvez vous prendre ça comme une revendication avant de déposer les armes, la question de Jean-Pierre Bemba, alors que le MLC lui-même dit que ça ne vous engage que vous?
Et nous sommes en train de penser que les Congolais doivent rentrer indistinctement. Qu'ils soient en Angola, nous ne sommes pas heureux de trouver qu'à partir de l'Angola, par exemple, un bon matin, on soit obligé de chasser de populations d'origine congolaise comme si ils n'ont pas un État qui doit les protéger lorsqu'ils sont à l'étranger, ou comme s'ils ne peuvent pas rentrer dans la dignité s'ils veulent s'établir au Congo, ou si même l'Angola ne veut pas d'eux, au moins que leur retour soit dans la dignité. Donc, nous pensons grand, nous pensons national, et si le MLC se trouve qu'il déclare que cela n'engage que nous assumons.
Non, vous assumez. Comment, Willy Michiki, vous pensez un peu de cette revendication du CNDP là-dessus?
Oui, là, exceptionnellement, nous sommes tout à fait d'accord avec le CNDP, parce que nous sommes des démocrates, les Maïmaï, nous avons toujours combattu pour que règne à jamais la démocratie, la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme dans ce pays. C'est pourquoi on nous appelle des résistants patriotes des Maïmaï, puisque on ne peut pas défendre l'intégrité territoriale du pays, sa souveraineté, et s'opposer à ce que les fils de ce pays reviennent dignement. Et ce que nous avons dit aussi à ce qui concerne le cas de Jean-Pierre Bemba, que nous ne voyons pas des problèmes à ce qui concerne son retour sans condition et que sa sécurité soit assurée. Vous savez bien capté quand même, et il a eu des millions de votes, donc c'est un leader de l'opposition. Il représente à travers lui des millions d'opinions congolaises, donc on ne voit pas de problème à ce qui concerne son retour. Donc nous sommes assez à ce point-là, tout à fait d'accord avec le CNDP.
Oui. Okay.
nous avons constaté qu'il y a une culture de recours à la force pour régler les différents politiques. Et je sais que nous invitons absolument, nous voulons, quand il y a des problèmes, il faut en tout cas recourir au panable africain.
Oui, même si vous avez pris les armes vous-même.
Oui, justement, puisque nous avons pris les armes, puisque le gouvernement n'a pas pu nous donner l'opportunité de pouvoir parler, c'est pourquoi nous ne voulons pas aujourd'hui que j'appelle même aussi prenne les armes pour qu'à l'Équateur, en Bandaka, en Badrissé, ils se tiennent encore une autre conférence de paix.
Oui.
C'est ça que nous voulons prévenir. Là, nous sommes tout à fait d'accord, et je crois que cette culture-là, de passeport pour régler les différents politiques, on doit absolument y mettre fin.
Oui. Alors, on va, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, le CNDP, encore vous, René Abandi, vous êtes à la conférence sur la paix dans les deux Kivus, mais vous exigez en même temps des négociations directes avec le gouvernement, ça veut dire quoi?
Voyez-vous, c'est pour eux que cette conférence, j'allais dire, c'est un fait, que cette conférence a reçu pour mandat de faire une proposition au gouvernement afin que le gouvernement puisse prendre des décisions, des propositions qui visent à permettre au gouvernement de jeter les bases d'une paix solide. Donc, lorsque nous constatons que son mandat se limite seulement à faire des propositions,
oui.
Sinon, si, outre cela, il devient, il prend des décisions illégales, nous avons pensé qu'il était bon qu'à l'issue de cette conférence, il y ait une recommandation qui demande la poursuite des négociations pour permettre, entre notamment les gouvernements et nous-mêmes, le CNDP,
oui.
Pour permettre d'aider le fonds d'un certain nombre de questions qui seront restées en suspens, et ainsi à obtenir pour toujours la paix.
Professeur Biéa, là-dessus, est-ce que finalement il faut qu'après la conférence de Goma, qu'on ait des négociations directes, le groupe de Laurent Kunda notamment, et le gouvernement?
Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur une chose, parce que l'intérêt ou l'intéressant dans ce que vous posez comme question et dans les réponses qu'on vous apporte, c'est que vous avez là, à Goma, des protagonistes qui n'ont pas une même rationalité. Il y a des protagonistes qui négocient que sur une dimension locale. Et qu'il y a un protagoniste qui, conscient de ce que sa force est en même temps une faiblesse, négocie sur le plan plus global, sur le plan national et sur le plan même international. La position des hommes d'un Kunda, là, si vous comprenez très bien, lorsqu'ils vont chercher Jean-Pierre Bemba, c'est pas tellement qu'ils ont besoin de sauver Jean-Pierre Bemba, mais ils ont besoin. Puisque tout le monde a dit que la conférence de Goma intéresse la nation, de se retrouver dans un agenda national, de légitimer leur position sur le plan des enjeux nationaux, et qui ne sont pas seulement des locaux. Et ce n'est pas pour rien par moment qu'ils mettent même des causes extra.
C'est pas parce que
c'est pas une opportunité, c'est une technique de négociation. C'est pour embarrasser, en fait, les initiateurs de la conférence. Parce que leur crainte, c'est quoi? C'est que la conférence de Goma ne soit, en fait, une manipulation destinée à les diaboliser, à les exclure, en les mettant dans une majorité où ils seraient perdus. Mais et ils savent aussi, que, par ailleurs, qu'ils ont des armes, et qu'avec les armes, ils peuvent s'imposer. Mais qu'une victoire militaire serait une victoire la plus russe, parce qu'ils n'auraient pas, en fait, de pendant politique, parce qu'ils ont déjà gagné, l'RCD a gagné militairement, mais l'RCD, sur le plan des partages de pouvoir, a perdu. Et que même Laurent Kunda peut militairement peut-être s'imposer, mais qu'à la longue, les gens ne vont pas accepter le fait qu'il impose une solution militaire.
Oui.
Et alors, je pense que les hommes de Kunda sont suffisamment intelligents et habiles pour comprendre qu'il est faux une victoire qui ne provienne pas, une victoire qui ne vienne pas simplement du consensus de Goma,
oui.
Mais une victoire qui reçoive l'approbation de l'ensemble de la nation,
oui.
Et leur cause passe une cause nationale, et là est leur interlocuteur. Ce ne sont pas les groupes qui sont là-bas, et leur interlocuteur, c'est le commanditaire de la conférence. Ils donnent l'impression que tous ceux qui sont à la conférence sont des gens qui sont au service du gouvernement de Kinshasa. Voilà pourquoi ils demandent. Je ne dis pas que c'est juste, mais c'est ça, en fait, une manœuvre. Il manège comme ça et il faut entrer dans cette logique pour savoir maintenant comment en fait il faut placer les pions.
Poursuite de la conférence sur la paix à Goma, les groupes armés se sont exprimés, mais face à ces revendications, quelle solution pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire national. Nous vous retrouvons tout de suite avec nos invités, Uli Michiki, représentant du groupe Mai Mai, et René Abandi, porte-parole du CNDP de Laurent Konda, ainsi que le professeur Philippe Bioya, analyste politique.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Poursuite de la conférence sur la paix à Goma, après les déclarations et interventions des groupes armés, face donc à ces revendications, quelle solution pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire national? Madame Anneke de l'ONG internationale Human Rights Watch estime que les responsables des groupes armés doivent assumer leurs responsabilités face aux différents crimes graves commis contre la population. On l'écoute, donc on écoute Madame Anneke van Wundenberg, chercheur principal Pôle RDC de Human Rights Watch, au téléphone de Willy Akonda.
Alors c'était clair pour moi, donc il travaille pour Human Rights Watch, qui avait documenté les crimes de tous les groupes armés. J'étais quand même un peu frappée quand j'ai suivi toutes les présentations de groupes armés hier et avant-hier. Et si j'ai bien suivi, chacune de ces groupes est responsable pour des crimes. Ils ont présenté qu'ils sont comme des anges, et nous savons que ça, ce n'est pas la vérité. Je pense que cette conférence est vraiment le moment de dire la vérité, et nous tous, nous savons. Donc, les groupes armés comme le CNDP, comme le PARECO et tous les groupes armés Mai Mai avaient eux-mêmes commis des crimes graves contre la population, comme des viols, comme des meurtres et comme le pillage. Et c'est important, je pense, qu'on le dit et qu'on peut étudier cette problématique aussi. Et les groupes armés doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Et un jour, les leaders de tous ces groupes doivent répondre à la justice.
Willy Michiki, est-ce que vous, les Mai Mai, vous reconnaissez votre responsabilité dans les crimes commis contre la population?
Non, mais nous avons, vous savez, pourquoi, je crois que nous sommes la seule force parmi les forces qui ont signé l'accord de Pretoria qui avons gardé intactes nos positions jusqu'à aujourd'hui. Nos adversaires d'hier, les RCD et les Valiers, ont traversé le territoire contrôlé par les Mai Mai pour se retrouver à l'est du pays. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que nous sommes protégés par Dieu à travers les pouvoirs qu'il nous donne, puisque nous ne devons pas commettre des bêtises. Un Mai Mai qui commet des bêtises, il sort du cadre des Mai Mai, et la première base, certainement, tombera de lui. Oui. Nous avons espéré, nous qui avons été envahis, nous avons protégé nos populations, parce que l'État s'est déclaré défaillant. Il n'existe pas d'État ici chez nous. Et comme l'État était même compris avec l'envahisseur, nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos propres populations.
Vous dites qu'il chez vous où? Vous dites qu'il n'y a pas d'État chez vous où?
Chez nous, dans les grands circuits, que ce soit au nord ou au sud. En tout cas, on ne sent pas la présence de l'État. L'État ne protège pas les populations. Et si l'État existait, en tout cas, les Maïmaïs n'auraient pas des raisons d'être.
Mais comment?
Vous ne verrez jamais les Maïmaïs traverser les frontières pour aller envahir ou faire des opérations dans les pays voisins. Parce que cela sortirait des cadres de lutte pour laquelle nous nous sommes assignés.
Oui, mais oui, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre lorsque la dame de Human Rights Watch, et puis il y a eu beaucoup de reportages quand même sur des crimes attribués aux Mai Mai?
En tout cas, s'il y a des crimes attribués aux Mai Mai, ce n'est pas les Mai Mai qui ont attaqué. Les Mai Mai, c'est les femmes. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nos populations, les populations civiles, les femmes, les enfants, ils sont violés. Et nos mères, nos grands-mères, nos petites filles sont violées, ont vu un petit de tout le monde. Comment ne pouvez-vous pas sincèrement prendre les armes et nous défendre?
Oui.
Alors, c'est ça l'État qui nous a abandonné à nous-mêmes. Les Mai Mai n'ont jamais violé, n'ont jamais attaqué. Nous répondons chaque fois à des attaques qui nous sont imposées par les adversaires, notamment, non seulement les troupes de Rwanda, les Fonds, les FDP, les FDP, mais aussi les troupes des FDP aujourd'hui.
Bon, alors René Abandi, vous, le CNDP, au moins peut-être que vous allez reconnaître votre responsabilité dans ces crimes, puisque les Mai Mai ne reconnaissent pas.
J'entends Mme Anik parler, je suis très étonné et surpris qu'elle dit que le groupe armé se présente comme des anges et elle présente immédiatement les FARDC comme des anges et condamne uniquement
les organisations politico-militaires, les groupes armés, je crois que c'est là une injustice grave aux populations qui sont objets de violations de droits humains massivement par les FARDC. Et voilà qu'elle fait ce rôle assez habilement et parce qu'elle dispose d'une autorité morale assez suffisante, c'est vrai. Elle choisit les temps du corps, c'est vrai aussi. Mais je dois dire et préciser que leurs travaux, j'ai d'ailleurs vu les travaux publicités, ce sont des travaux qui ne se donnent pas souvent la peine de fouiller, de vérifier les faits. Par exemple, si on vérifiait exactement les faits, on saurait les faits de la manipulation dans la création, de la manipulation politique dans la création des camps de détention. C'est quelque chose d'inadmissible et d'inacceptable.
Donc pour vous, si on vous comprend bien, il n'y a pas que les FARDC ne sont pas des anges, donc vous êtes tous dans le même sac, quoi. Donc ceux qui violaient, qui en fait commettaient des crimes contre la population, si je vous comprends bien.
On n'est pas tous dans le même sac. Je dois préciser à l'opinion que d'autres recherches, notamment de l'UNICEF 2006 et 2007, ont montré des statistiques selon lesquelles dans la zone où nous sommes, ce qu'on appelle le Petit Nord, c'est-à-dire Massissi, Goma, Rutshuru ou Walikale, où se trouvent aussi bien les FARDC que les Maïmaï et les FDLR, 52% des femmes violées, c'est les fêtes de FDLR. 16% c'est le fait des FARDC, 16% c'est le fait des Maïmaï, 11% c'est le fait des civils, 6% c'est le fait des inconnus, et 4%, j'ai honte de le dire, c'est ça a été le CNDP. Je pense que le CNDP est en train de prendre des mesures pour le punir sérieusement et sévèrement et continuer à faire en sorte que ce phénomène soit à jamais banni du millier de citoyens de ce pays.
Oui.
Donc nous le regrettons beaucoup et nous regrettons surtout des organisations internationales qui, ayant choisi de prendre le camp du gouvernement, manipulent aussi les données.
Oui, professeur, un commentaire justement, est-ce que vous avez l'impression que les groupes armés sont prêts à assumer leurs responsabilités là-dessus?
Deux choses. Puisque personne n'a gagné la guerre, il est très difficile, en fait, d'en arriver à une justice qui soit équitable. Ouais. Parce que généralement, la justice va du côté de la force. Quand, s'il y avait un camp qui avait gagné la guerre, ce camp fait référer sa justice, il imposerait sa loi. De deux, c'est le fait que la conférence poursuit un objectif de règlement politique. Mais le règlement politique exclut un règlement judiciaire ou juridictionnel. Alors, je crois que si on mélange des agendas, on ne va pas s'en finir. Les ONG n'ont pas une culture politique. Les ONG, en fait, sont ONG. C'est-à-dire, c'est un peu comme des gens qui vendent, en fait, des opinions pour se faire valoriser quelque part. Je crois que les ONG devraient seulement se limiter au niveau d'apporter des faits. Pour que lorsqu'on a confié la chose aux politiques, que les politiques voient comment ce qu'ils peuvent juger se fait. Pourquoi? Parce que Yahi, c'est pas la première fois que les guerres terminent par des jugements. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée. Mais ceux qui ont gagné la guerre n'ont pas fait immédiatement. Ils ont fait, ils ont monté des tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, un peu partout là. Mais c'est pas tous les tribunaux qui l'ont jugé parce que ça continue encore jusqu'à aujourd'hui qu'on juge des gens.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire ceci. Si l'objectif c'est de faire une paix civile, il faut réconcilier les gens, il faut que les gens redeviennent des frères, parce qu'il s'agit ici des situations de guerre civile. L'arbitre, c'est pas un juge, l'arbitre, c'est un parent, parce que la guerre civile, c'est la guerre qui détruit la société. La société, c'est un cadre de conjonction des affections. Nous étions des frères et nous nous sommes séparés. On jugerait très mal, on comprendrait très mal que pour un différent en famille, que les frères et les sœurs aillent devant un tribunal.
Oui, mais pour
alors, je pense que c'est une approche... Politiquement, nous devons être responsables parce que nous recherchons quoi?
Ouais.
Nous recherchons que la nation redevienne ensemble parce que dans cette situation de Goma, de l'Est, il n'y a pas que des problèmes internes. Il y a des problèmes externes qui sont plus importants qui font que nous perdons la souveraineté parce qu'à l'Est, l'État est agressé. L'État perd de sa souveraineté par des présences étrangères permanentes et par des émissions de puissance étrangère qui puis nos ressources. Et puis, maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que nous pour lutter contre les extérieurs, nous avons besoin d'avoir tous les Congolais pour qu'on instrumentalise plus de Congolais. Donc, ce que nous considérons qu'ils sont instrumentalisés, c'est que nous accusons des traîtrises. Pour qu'ils ne soient plus des traîtres, il faut qu'ils soient avec nous.
Oui,
mais... Parce que s'ils ne sont pas avec nous, nous recevons la situation qu'on a vécue en Allemagne.
puisqu'il y avait des sujets allemands dans d'autres pays qui étaient maltraités, Hitler, qui était plus fort, il a fait la guerre à tout le monde et il a perturbé la paix mondiale. Oui. C'est en fait, c'est, si nous voulons que le Rwanda ne devienne pas, en fait, le maître de l'Afrique centrale et Grand Lac, oui, alors traitons comme il se doit les minorités congolaises qui ont des majorités au Rwanda.
Oui, mais alors, professeur, tel que vous le dites, c'est un peu rejoindre une autre revendication du CNDP que René Abandi va peut-être appuyer, c'est celle de supprimer carrément tous les procès menés par le gouvernement congolais au niveau des tribunaux internationaux. René Abandi, je crois que vous le confirmez.
Non, bon, je peux répondre.
Vous allez répondre, professeur, que d'abord René puisse confirmer. Vous confirmez cette revendication, René Abandi?
Non, les problèmes, nous les posons autrement. Nous les posons en termes de principes. Nous croyons que le Congo, dans sa recherche de restauration de sa dignité au contraire des nations, ne doit pas extrader ses fils et ses filles vers des juridictions supranationales. Nous croyons que la Constitution ayant tranché que nul ne peut soustraire un citoyen contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et chaque fois qu'un citoyen congolais est kidnappé et transporté vers un pays étranger pour y être jugé, il s'agit d'une soustraction d'un citoyen contre le juge que la loi lui assigne. Donc il s'agit d'une violation de la Constitution, il s'agit d'une extradition des enfants de la patrie vers d'autres pays, il s'agit par ricochet du renoncement à la souveraineté nationale, parce que la justice faisant partie des fonctions régaliennes de tout État.
Oui.
On en arrive au fait que l'État se prive de sa fonction d'administrer et de distribuer la justice.
Oui, mais concrètement, René Abandi, vous voulez quoi concrètement? Que, par exemple, qu'il n'y ait pas de mandat contre Laurent Kounda, est-ce que c'est ça?
Non, nous voulons dire, nous posons les problèmes sur le plan général, et nous pensons à l'Ituri notamment, nous pensons aussi demain ou après-demain à n'importe quel autre citoyen. Je le vois souvent à la télévision, des publicités sur le tribunal pénal international, c'est devenu quelque chose qui, on dirait, vient et remplace et substitue les juridictions nationales.
Donc, oui.
Et même dans les quartiers,
oui.
Quand le tribunal international passé à la télé, oui. Les publicités même. Donc, et ça veut dire que des citoyens sont devenus justiciables aux juridictions internationales.
Ouais,
ça veut dire qu'on a fait carrément à la souveraineté nationale.
Oui, on a compris. Donc, pour vous, il faut que la justice au niveau national puisse faire s'en occuper, si on vous comprend, hein, en les mots.
Exactement.
Voilà.
Il faut que les Congos soient jugés par des juridictions nationales.
Oui, exact. Voilà. Professeur, un mot.
Voilà, ce qui est important dans ce qu'il dit là, il faut prendre, c'est quoi? C'est leur attachement à la Constitution. Parce que leur attachement à la Constitution signifie qu'en fait, ils sont redevables devant la loi, c'est qu'ils ne pourront pas échapper à la loi. Parce que ce qu'ils disent au propos de la Cour pénale internationale, dans les statuts de Rome, il y a une clause de protection des citoyens. Les États-Unis, par exemple, au nom de cette clause, refusent que l'on puisse juger un citoyen américain ailleurs. Mais ce qui est aussi qu'il faut signaler, c'est que même lorsque nous envoyons des gens là-bas, nous le faisons sur base des accords de coopération. Je pense que il faut pas, nous risquons de passer outre ce qui est essentiel. Ce qui est fondamental ici, c'est que la conférence doit déboucher à un résultat qui ferait qu'aucune communauté de l'Est n'obtienne un avantage sur le plan des rapports militaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre des rapports de force réelle qui pourrait faire que si chacun négocie en position de sa force militaire,
oui,
les gens risquent d'obtenir le droit simplement parce qu'ils ont pris les armes.
Voilà.
Alors, si nous privilégions comme est privilégié la Constitution, nous trouvons une bonne base pour les amener d'abord à désarmer et à être protégés par la loi. Et lorsqu'ils auront été protégés par la loi doit programmer. Une nation ne peut pas agir dans la précipitation.
Ouais.
Ce n'est pas de juger aujourd'hui. Parce que si vous jugez tout de suite les gens qui ont pris les armes, on risque de dire quoi? Que vous voulez exclure, en fait, les adversaires. Il y a eu, nous avons une histoire, Combé a fait la sécession.
Ouais.
C'est le plus grand péché politique qu'un politicien puisse commettre de séparer la nation.
Okay.
Mais Combé a été premier ministre dans ce pays. Combé n'a jamais fait l'objet d'une procédure.
Mmh.
Il avait aussi des hommes, les gens Katangi qui sont encore aujourd'hui.
Mmh.
C'est-à-dire que ces choses, si l'autorité de l'État est là, l'État agit dans la durée, dans le temps, et l'État peut programmer.
Ouais. Voilà, on va prendre la réaction des auditeurs avec vous, Willy Akonda. Bonsoir, Willy.
Bonsoir, Jean-Claude. Nous avons d'abord Thomas Zebondo de Mbandaka, à l'Équateur, qui pense que Laurent Kunda a l'ambition séparatiste et sécessionniste. Il ne va jamais accepter les résolutions ici de cette rencontre. Il veut plutôt rester maître de la partie qu'il contrôle. Nous avons Cave, Pascal de Butembo, au Nord Kivu, qui pense que les revendications de Kunda ne sont pas fondées. Faudra-t-il tuer les Congolais de Masisi de Rutshuru pour réclamer le retour des réfugiés, et aujourd'hui celui de Jean-Pierre Bemba? Kachala Didier de Kinshasa dit ceci: pour que le pays soit en paix, je demande aux autorités du pays d'amnistier tous les politiciens.
Merci beaucoup, Willy Kunda. On va évidemment vous faire réagir immédiatement là-dessus, notamment avec Sumbu Banyonga de Kindu dans la province de Maniema, qui demande au CNDP qui a chassé Jean-Pierre Bemba au Congo, est-ce au nom de Bemba qui fait la guerre? La question à vous, René Abandi, est-ce que c'est au nom de Jean-Pierre Bemba que vous faites la guerre?
Ce n'est pas au nom du sénateur Jean-Pierre Bemba que nous faisons la guerre. Ce n'est au nom des personnes que nous faisons la guerre, et nous ne faisons même pas la guerre.
Oh.
Donc, ce que nous faisons, nous nous défendons contre une option militariste à laquelle, d'ailleurs, que nous avons dénoncé fortement, haut et fort.
Oui.
Ce que nous pensons...
Bref, parce qu'il y a d'autres questions. Oui, allez-y.
Ce que nous pensons qu'il faut faire, c'est une solution politique au problème que les citoyens posent.
Voilà.
Nous posons des problèmes. Chaque citoyen, et nous avons expliqué ce que disent les auditeurs qui nous prêtent des intentions sécessionnistes, séparatistes, nous avons des revendications qui mènent vers là. Nous voulons les rassurer. Malheureusement, ils ont été obligés d'une manipulation à longue durée. Nous le regrettons. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut un travail de désintoxication du peuple pour qu'il sache réellement où se trouve son intérêt, et qu'il n'y a plus le temps à la manipulation politique, il y a plutôt le temps à l'ouverture sur des projets, des projets de société, sur des visions, des horizons.
Merci beaucoup, parce que vous avez ramassé pratiquement toutes les questions adressées contre le CNDP de Laurent Kunda. Et pour vous, Willy Nishiki, Kachala Didier de Kinshasa, lui qui demande, il plaide pour l'amnistie de tous les politiciens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, absolument. Vous savez, une véritable réconciliation doit passer par une amnistie, absolument. Mais l'amnistie des politiciens, d'abord, la plupart de ces gens-là, je crois, auxquels M. Kachala fait allusion, sont des semi-politiques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont aujourd'hui, qui coupent en prison à cause de leurs opinions, tels que les Coutinons, les autres, ils sont nombreux. Et nous pensons qu'il y a une véritable... On ne peut pas aujourd'hui parler de cinq chantiers, si le peuple congolais n'est pas uni. Que vous savez de l'opposition, vous savez du côté des pouvoirs. Je pense que nous tous, indépendamment de nos opinions politiques, nous devons nous manger derrière les chefs de l'État, mais à une seule condition, qui est une véritable réponse. Sinon, tout ce chantier-là ne peut pas aboutir si le peuple congolais n'a pas une même bonne vision sur l'avenir du pays.
Oui, ça n'est pas une bref, hein. Oui, ça est bref. Voilà. Et il y a d'autres réactions comme ça, on va les citer, vous allez essayer de répondre juste en quelques secondes. Il y a des auditeurs notamment qui se demandent quelle garantie vous, les groupes armés, vous donnez au peuple qu'à la fin de cette conférence, il y aura plus d'insécurité, plus de guerre dans les deux Kivu. C'est notamment une question de Ndous et de Kalemie au Katanga. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, moi je peux répondre en disant qu'en tout cas, lorsque vous voyez les revendications à la conférence de tous les groupes, la réponse ne peut produire que le gouvernement. Donc c'est l'État, on a trouvé en fait de compte que le gouvernement, l'État était le plus grand responsable de tout ce qui est arrivé. C'est l'État qui fait des situations. Je peux donner par exemple un cas.
Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps, hein, donner en quelques secondes seulement.
Oui, mais je vais les de nommer les mandataires. Je donne un territoire, le plus vaste territoire du Parti Rouge, là même pas un seul mandataire, alors que le chef de l'État a récolté plus de 95% de voix à Washington. Même pas un mandataire, alors que dans d'autres territoires, ils n'ont plus besoin. Donc c'est ça qui crée des situations. Les populations locales n'y sont pas créées, mais le gouvernement est toujours responsable des situations créées et qui crée des conflits.
Merci beaucoup, professeur. Évidemment, on termine avec vous, hein. On ne sait pas. On n'a plus de temps malheureusement parce qu'il y a une conférence à laquelle vous participez au niveau de Kinshasa. On aurait aimé savoir un peu comment ça doit se passer tout cela, mais on y reviendra puisque, faute de temps, c'est par ici que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Au nom de toute l'équipe, Nadine Foula à la réalisation, William Conde à la préparation et Jean-Claude Siala à la mise en œuvre, sans oublier le concours de Claude Kianza et la rédaction Okapi Goma déployée à cette conférence. Nous vous disons merci à tous de nous avoir suivis.